La parole de Dieu est un instrument incroyable. Moi, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est tellement d'actualité. Elle est tellement pratique pour notre vie au quotidien. Et je crois et je prie régulièrement en Dieu parce que je dis, Seigneur, garde-moi de faire de ce livre si merveilleux quelque chose d'ennuyeux. Je crois que la parole de Dieu est belle, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu révolutionne nos vies, la parole de Dieu nous inspire et nous pousse à toujours nous rapprocher de Jésus. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai intitulé « Vivre le repos ». Appréciez-vous le repos ? Bon, alors soit vous en vivez pas beaucoup. En tout cas, on trouve un repos que la parole de Dieu et que Dieu nous propose. On est dans des temps de congé, juillet, août. Je dirais la majorité prennent leur congé dans cette période. Et de manière générale, je dirais, c'est une baisse d'activité, surtout sur Paris. On le voit au mois d'août, c'est assez calme. On peut prendre les ronds-points facilement sans avoir 10 000 voitures qui arrivent en même temps. Mais je ne crois pas me tromper en disant que les temps de congé et temps de repos, c'est quelque chose qu'on apprécie. On apprécie grandement même. En France, on est reconnu pour être un pays qui favorise justement le nombre de congés. J'étais dans d'autres pays où vous commenciez par une semaine. Vous faisiez 2 ans comme ça, après on vous rajoutait une autre semaine, puis au bout de 5-6 ans, peut-être une troisième si vous avez l'espoir de monter dans les échelons, mais après c'était terminé. Donc on est quand même béni à ce niveau-là. Et les congés sont souvent un temps de repos, un temps qu'on profite, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans nos temps d'activité, on profite de la famille, des amis, etc. Mais malheureusement, si je pourrais le dire ça ainsi, mais bon, c'est pas parce que le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Mais malheureusement, les congés prennent fin à un moment donné. Il faut bien aller retourner au travail. Et il y en a même qui, les derniers jours avant de retourner au travail, ils sapent un peu leur congé parce qu'ils sont plus en train de penser au retour qu'à profiter des derniers jours qui leur restent. Puis des fois, je suis en vacances, puis j'entends les gens « Oh, plus que 4 jours. Oh, plus que 3 jours. » Puis vraiment faire un décompte et finalement, on dit « Mais non, mais écoute, profite, regarde, t'y es pas encore. Alors, profite jusqu'au dernier moment. » Et ce matin, j'aimerais vous partager et parler d'un repos, qui est tout à fait différent, puisque celui-ci a une possibilité d'être illimité. Un repos illimité. Un repos qui peut se vivre toute l'année. Et je dis bien qu'il peut se vivre parce que ça dépend de nous. Et malheureusement, beaucoup trop de chrétiens ne vivent pas ce repos. Un repos que Dieu propose. Un repos qui est bien sûr le repos de l'âme, un repos de notre conscience de tout cet état d'être dans lequel nous vivons, et un repos qui se vit même durant nos activités les plus intenses, un repos malgré les temps difficiles, un repos qui ne peut jamais prendre fin. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce repos, bien sûr, seulement Dieu nous le propose. Et j'aimerais parler bien plus qu'un repos, qu'une sérénité ou qu'un calme intérieur. J'aimerais parler d'un repos comme un style de vie, comme une manière d'être qu'on revêt au quotidien. Alors, on va prendre un texte pour ceux qui ont leur Bible, dans Marc, chapitre 4, un texte qu'on connaît très bien pour la plupart d'entre nous. Marc, chapitre 4, au verset 35. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Amen. » Voilà un texte qu'on connaît bien, un texte qui bien souvent est un miroir de l'effet que peut avoir sur nous les tempêtes de la vie. Et on trouve dans ce texte 2 réactions complètement opposées, celle des disciples,
celle des disciples où la tempête commence à monter, la barre commence à, je dirais, couler. On voit des disciples agités, on voit des disciples qui vont même aller réveiller Jésus avec beaucoup de peur, de tourment, d'agitation. Et de l'autre côté, dans la même tempête, dans le même bateau, on voit une autre personne qui, elle, réagit complètement différemment. C'est Jésus. Et lui, à l'inverse, puis c'est vraiment à l'inverse, il dort. Il dort paisiblement. Et les disciples montent dans cette barque. À la base, ils sont sereins et calmes lorsqu'ils montent tous dans ces différentes barques, parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont tous sereins et calmes, mais lorsque la tempête arrive, quelque chose commence à changer. Quelque chose commence à changer, c'est ce que dira Jésus plus loin, mais c'est l'incrédulité, la peur qui va naître dans leur cœur et du coup qui va amener une réaction complètement différente. Alors qu'ils étaient sereins et calmes, là ils vont être agités, là ils vont être perturbés, avoir peur. Et on remarque que c'est l'incrédulité qui les a conduits à la peur et non l'inverse. Jésus leur reprochera leur incrédulité. Matthieu soulignera ces paroles, « Pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi ?» Et Luc rapportera ceci en disant, « Où est votre foi ?» L'incrédulité est la porte, c'est une porte ouverte. Laisser le doute et l'incrédulité venir dans mon cœur, c'est ouvrir une porte à toute une série d'états. Ça peut être la peur, mais ça peut être la dépression, ça peut être multitude de choses, hein, la précipitation, le surmenage, à faire les choses par nos propres forces, etc. Mais l'incrédulité est souvent la base de beaucoup de choses qui sont et qui viennent dans mon cœur. Et la question des disciples est assez interpellante puisque ils vont voir Jésus et vont lui dire ceci, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Sauf que il s'adresse à quelqu'un qui dort. Si on fait ça dans un contexte, si je dors et qu'il se passe quelque chose à la maison, quelqu'un qui vient me réveiller ne va pas me dire « Pourquoi tu ne t'inquiètes pas ?» Je ne suis pas au courant, je dors. On est d'accord avec ça. Pourquoi je m'inquiéterais vu que je ne suis pas au courant de quelque chose ? Mais là, la question des disciples est assez interpellante parce qu'alors on se demande pourquoi ce disciple a dit ça à Jésus. Est-ce que Jésus se serait-il endormi au moment où la tempête, au moment où les choses commençaient à tourner mal et les disciples l'ont vu d'un mauvais œil, qui s'endorme au moment où il aurait dû peut-être se bouger et puis écoper aussi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il se rappelait que Jésus savait toute chose et que finalement il était le Fils de Dieu, alors même s'il dormait, il devait être conscient de la situation, il aurait dû faire quelque chose. En fait, ce qui les gênait, c'est que Jésus ne faisait rien. Jésus ne faisait rien. Et ça les a conduits à l'incrédulité. Et à l'opposé des disciples, dans cette même tempête, lui, Jésus, dormait. Vous savez, souvent en tant que chrétien, on dit être différent des autres, n'est-ce pas ? On dit avoir Jésus dans notre vie, on dit être sauvé, on dit vivre de surnaturel, on dit qu'avec Dieu, les choses ne sont jamais impossibles, qu'il y a toujours une solution. Puis quand une tempête arrive dans nos vies, on réagit souvent comme n'importe qui. Alors, elle est où la différence ? Elle est où cette différence à laquelle Dieu nous appelle, où finalement on ne doit pas faire une différence juste quand tout va bien et qu'on peut témoigner avec zèle de l'amour de Dieu, on peut témoigner de la grâce de Dieu. Mais lorsque la tempête se lève, que se passe-t-il ? Quel est notre comportement ? Quelle est notre réaction ? Et qu'est-ce qui va faire la différence pour que je dise à quelqu'un, Jésus, vaut la peine ? Que va-t-il voir en moi ? Et bien sûr, il y a une multitude de choses à dire, ce n'est pas le seul point. Mais je crois que le repos, ce repos que Dieu nous procure, peut faire la différence. Peut faire la différence dans notre manière de réagir et d'agir face aux situations et aux circonstances difficiles. Alors qu'est-ce qu'on désire ? À travers cette tempête, est-ce qu'on désire ressembler à Jésus, qui est dans ce calme et ce repos ? Ou bien l'agitation des disciples remplis d'incrédulité et de peur. C'est un choix qu'on doit faire. On doit le faire, ce choix. Jésus nous propose ce repos, on va le voir. Mais c'est à nous de le saisir. Et c'est à nous surtout de le vivre. Parce que c'est possible de le vivre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci dans Hébreux 4, 9 à 16. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Avec assurance, non avec peur, non avec crédulité, non dans le but de supplier pour convaincre que si Jésus, tu pouvais, j'aimerais te convaincre de faire quelque chose. Non, c'est avec foi, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Qu'est-ce que ce repos ? Bien sûr, il est question d'abord du salut, parce que nous entrons dans ce repos de l'âme, ce repos de cœur. Mais le salut n'est pas juste une étape qu'on traverse et qu'une fois qu'on a passé, c'est fini. Le salut est un état d'être. Je suis sauvé. Demain, après-demain, je suis sauvé. Et cette paix, ce repos que j'acquiers à travers le salut, je dois le conserver au quotidien. Je dois vivre dans ce septième jour. Je dois vivre dans ce repos que Dieu me propose. Au même titre que Jésus l'a vécu sur la terre, nous sommes appelés à vivre ce repos. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va mettre en garde contre ceux qui nous ont donné le même exemple de désobéissance dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il parle du peuple d'Israël dans Hébreux 3. Vous pourrez lire le contexte, si vous voulez, un peu plus loin, un peu plus avant, chapitre 3, chapitre 4. Mais il va dire aussi ceci, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans ce repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Au même titre que l'incrédulité nous ferme les portes du salut parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés, à ce même titre, lorsque nous sommes sauvés, nous acquérons par la foi ce salut, nous devons conserver, comme dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette foi que nous professons, nous devons la conserver afin que l'incrédulité ne nous enlève pas ce repos que nous avons acquis à travers le salut. Et si, bien sûr, il n'est pas simplement question de lorsque Jésus reviendra, bien sûr, il y aura ce repos éternel. Mais il est question maintenant, tout de suite, de vivre une différence, de vivre quelque chose de différent, parce que nous avons la différence dans notre vie, à savoir Jésus-Christ. Alors ça doit se voir, ça doit se voir, ça doit s'entendre, les autres doivent voir une différence. Et dans ma manière d'être, ma manière de réagir, est-ce que je vais réagir comme les disciples ou bien comme Jésus parce que ça va faire la différence? Alors, la question serait comment vivre ce repos de façon pratique? Comment vivre ce repos au quotidien lorsque les défis nous assaillent? Et c'est ce que j'aimerais voir. J'aimerais parler de plusieurs défis qui veulent nous pousser hors de ce repos. Plusieurs défis qu'on peut traverser, je ne vais pas tous les voir, je vais en voir quelques-uns. Et le premier, on le trouve dans ce passage de la tempête. Et j'appellerai ce défi le défi de l'urgence. Ce qui est urgent. Les disciples, à un moment donné, c'était une question de vie ou de mort. Ils allaient sombrer, ils ne savaient pas nager à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de champions de natation. Ils allaient tomber à l'eau et c'était fini pour eux. Donc c'était réellement urgent, il y avait une question de vie ou de mort. Puis on le voit même dans cette question du disciple qui va arriver, Jésus, « Wow, on est en train de périr là! Fais quelque chose !» Il y avait une situation d'urgence cumulée avec le fait que Jésus ne fait rien. Est-ce que ça vous rappelle parfois certains moments de votre vie? Une urgence cumulée avec le fait que Jésus ne semble rien faire. Et là on vient, « Seigneur, c'est urgent !» C'est urgent, réponds maintenant, là, c'est une question de vie ou de mort, Seigneur, fais quelque chose. Souvent, ce qui arrive, c'est que soit on a le silence, soit Jésus nous donne quelque chose, mais ça nous fait tenir quelques jours de plus seulement. Puis là, c'est ok, Seigneur, c'était bien ça, mais ça serait bien que tu résous les choses une fois pour toutes. Puis Dieu nous redonne encore une semaine, puis une semaine après on revient. Et finalement, l'urgence s'étale dans le temps. Hein. Finalement, 3 ans après, on a encore dit, Seigneur, c'est urgent, fais quelque chose. Mais finalement, on traverse tout ce temps comme les disciples, dans une agitation, dans une peur, et on ne vit pas pleinement ce repos. Parce que l'urgence, nous, on le vit comme une urgence. Mais Dieu, qui est souverain, qui a créé toutes choses, ne se laissera jamais déstabiliser par ce qui pour nous est urgent. Il a tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Il fait ce qu'il veut. Alors nous, on vient avec notre urgent, et c'est ce qui fait qu'on rentre dans une agitation. On rentre, on s'empresse, on fait les choses par nos propres forces, puis là on essaye, on se démet. Et puis Dieu nous regarde nous agiter, et dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Hé, relax, je suis là. Tu fais les choses comme si je n'étais pas là. Tu fais les choses comme si je venais de découvrir moi aussi que tu vivais quelque chose d'urgent. Arrête, reste dans ce repos. Fais-moi confiance. Tu agis comme si je n'étais pas là. Une urgence, qu'elle soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau du travail, une urgence financière, une urgence dans ma situation, mon couple, etc. On prie, on fait prier l'Église. Seigneur, fais quelque chose. Et finalement, on laisse l'incrédulité nous envahir. L'incrédulité nous pousse aussi à changer nos priorités. Parce que les choses sont urgentes, alors on a moins de temps pour Dieu. Hein. Il faut que je règle les choses d'abord. Seigneur, tu comprends là? Écoute, momentanément, hein, on se reparle d'ici quelques temps. Il y a des choses à régler, il y a des choses urgentes. Puis on a juste le temps de dire tous les matins, Seigneur, au secours, aide-moi vite fait, mais il faut que je le règle, il faut que je fasse quelque chose. Toutes nos priorités sont renversées. Parfois, c'est notre famille qui est mise de côté. Et tout est renversé. Et finalement, si les choses traînent, je peux finir vraiment complètement épuisé, complètement lassé, déçu, meurtri. Et vous savez de qui je suis déçu ? Pas de Dieu, de moi-même. Et Dieu nous laisse et Dieu nous dit, tu veux essayer par tes propres forces, vas-y. Puis tu découvriras que tu peux rien. Alors apprends à me faire confiance. Apprends à rester tranquille dans ce repos que je te propose, moi. Cette parole d'Ésaïe 30:15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Cette force où l'urgence vient, mais non, je ne laisse pas prendre l'agitation. Seigneur, l'urgence est là, mais j'ai toujours la priorité pour toi. Parce que je sais que c'est toi. Et dans ce qui est urgent, je ne me laisserai pas avoir. Seigneur, c'est en toi que j'ai ce repos. Pourquoi je me laisserai précipiter? Pourquoi je me laisserai agiter? Pourquoi je me laisserai rempli de peur et d'incrédulité? Seigneur, tu es avec moi. Alors je peux avancer dans ce repos. Il faut discerner les actions que nous entreprenons par peur ou motivées par l'agitation et celles qui sont juste de notre responsabilité. On doit prendre nos responsabilités, mais à un moment donné, il faut faire confiance à Dieu. À un moment donné, on sent quand on commence par nos propres forces. Et là, on ajoute, on s'épuise. Alors que toute cette partie-là, Dieu nous dit, repose-toi en moi. Laisse-moi faire. Et parfois, on se met devant Dieu. Puis nous, on est en train de faire nos affaires, puis Dieu, on peut juste pas agir, on est pile de ventre. Dieu nous dit, hé, mets-toi là, assieds-toi et laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et Dieu, parfois, avec beaucoup, bien sûr, d'amour, mais nous laisse aller. Nous laisse aller pour qu'on comprenne que par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Et quand on a compris ça, on revient s'asseoir. Ok, Seigneur, vas-y. Mais à un moment donné, il faut comprendre la leçon. Et arrêter. Quand le conflit arrive, de comprendre tout de suite les choses, dit Seigneur, non, je ne me laisserai pas avoir cette fois. Je me confie en toi. C'est toi qui es la solution. Alors, ne renversons pas nos priorités. Un autre défi que j'appellerai l'imprévu. L'imprévu est différent de l'urgence. L'imprévu n'est pas forcément quelque chose d'urgent, mais c'est quelque chose qui vient dans ma vie et qui va faire bouger quelque chose. Un imprévu, quelque chose, j'ai pas prévu, quelqu'un, il s'est passé telle ou telle situation, ou telle personne a dit ça ou ça sur moi. Là, il y a un imprévu, il y a une réaction, je vais devoir entreprendre quelque chose ou pas.
J'aime l'exemple de la vie de Daniel. Daniel aurait pu se laisser avoir par le piège de l'imprévu et renverser toutes ses priorités. Vous connaissez cette histoire. Le roi voulait l'établir au niveau de tout le royaume. Il y a des chefs qui étaient jaloux de Daniel. Alors ils vont établir un plan par ruse. Ils vont dire au roi, publie un décret que si quelqu'un prie quelque chose ou un autre homme, excepté toi, qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Parce qu'ils savaient que Daniel priait régulièrement. Alors, ils vont faire passer le décret, et le décret va passer. Et la Bible nous dit ceci, que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant.
Et ce que j'aimerais souligner, c'est comme il le faisait auparavant. L'imprévu n'a rien changé pour Daniel. Daniel s'est maintenu dans ses priorités. Pourtant, là, c'était quand même grave. Hein,
il n'est même pas parti se cacher dans une cave. La Bible nous dit qu'il avait les fenêtres étaient même ouvertes. C'est comme ça que les autres ont pu voir qu'il continuait à prier.
Il n'a rien changé. Parce qu'il savait que qu'importe ce que les hommes pensent et décident, sa vie est dans des mains beaucoup plus supérieures que celles des hommes. Il est dans les mains de Dieu. Alors Daniel a demeuré dans ses priorités. Pourquoi il se serait agité? Pourtant là, il y avait question de vie ou de mort.
Moi, j'aurais pas aimé finir dans une fosse aux lions. Et je pense pas que Daniel voulait ça.
Mais Daniel avait ce repos en Dieu, cette confiance en Dieu. Et il va continuer à prier. Alors lui, il va le finir dans la fosse aux lions.
Le roi n'aura pas le choix, vu qu'il aura établi ce décret. Mais la Bible nous dit que Dieu interviendra. Il fermera la gueule des lions. Et ce sera quelque chose, bien sûr, la gloire de Dieu, puisque le roi donnera des honneurs à Dieu lui-même. La conduite de Daniel a été dictée par la paix et le repos qui étaient en lui, parce qu'il choisissait de faire confiance à Dieu. Combien de fois nous perdons ce repos? Une nouvelle arrive, il se passe quelque chose, une personne agit de telle manière et ça nous fait sortir.
On essaye de résoudre les choses, on fait les choses comme si que on est toujours, comme si que on pouvait compter que sur nous. Comme si qu'on pouvait compter que sur nos forces ou bien tout simplement de s'arrêter et dire « Seigneur, c'est toi ma priorité, je veux te remettre d'abord tout cela à toi. C'est toi le maître de ma vie. » Je ne me laisserai pas prendre au piège. Je ne me laisserai pas que ce soit mon travail, que ce soit dans ce que font mes collègues. Seigneur, ce repos, je l'ai en toi et je ne laisserai personne me le voler.
L'agitation et le fait de faire les choses par nos propres forces remplacent malheureusement bien souvent le fait de mettre Dieu en premier. Mais lorsque l'imprévu arrive, sachons commencer par Dieu. Et croyez-moi, nous allons acquérir une sagesse et un discernement. Et nous allons réagir bien différemment que si on aurait essayé par nos propres forces. Et les choses vont changer parce qu'on va apprendre à lui faire confiance.
Un autre défi auquel nous faisons face, tous à un moment donné, c'est celui de la souffrance. La question se pose, puis-je trouver et garder ce repos même à travers la souffrance? Ici, je ne parle pas de quelque chose qui nous fait pas pleurer ou qui rend toute douleur indolore, non. Je parle d'une paix, d'un repos qui nous garde en cette confiance en Dieu malgré la souffrance.
Le texte de Actes 16, 25 nous parle de Paul et Silas qui évangélisent, qui prient pour une dame qui va être délivrée et finalement à cause de ça, qui vont se faire jeter en prison, vont se faire battre, vont se faire fouetter. Mais qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers les entendaient.
Sont-ils mieux que nous? Avaient-ils une peau plus résistante pour avoir moins mal? Je ne crois pas. Ils étaient des hommes de la même nature que nous. La Bible nous le rappelle très souvent que ces hommes étaient comme nous. Ces hommes et ces femmes, ils étaient comme nous, et nous pouvons vivre ce qu'eux ont expérimenté, parce que nous avons le même Dieu. Alors oui, c'est possible. Et ces gens, Paul et Silas, auraient pu se laisser prendre par cela, au lieu de rester dans cette paix et de ce repos, auraient pu être agités par les pourquoi. Pourquoi tu permets ça? Pourquoi alors qu'on te sert, tu nous envoies en prison? Pourquoi tu nous délivres pas? Et finalement, pourquoi on a mal? Pourquoi? Et finalement, de rester là-dedans avec amertume, avec rancœur, eux, ils étaient dans ce repos. Parce qu'au-delà de tout ce que les hommes pouvaient faire, ils savaient que leur vie appartenait à Dieu. Et même Paul disait, la mort, pour moi, c'est un gain. Je suis toujours gagnant avec Dieu. C'est ça qui est incroyable. On n'a pas de plus beau lieu que d'être entre les mains de Dieu parce qu'on est toujours gagnant. Et dans cette confiance que Paul pouvait traverser tout ce qu'il a traversé. Parce qu'il avait confiance. Et cette confiance lui procurait ce repos. Il y a tellement d'autres défis. Par exemple, celui de l'activisme, il y en aurait bien d'autres. J'ai passé là, mais on le voit, Marthe et Marie, j'ai prêché ça dans le dernier message au niveau des jeunes adultes, Marthe et Marie. On voit Marthe et Marie qui servent Dieu, puis à un moment donné, Marie, elle, s'arrête et va aux pieds de Jésus. Et Marthe n'est pas contente. Marthe va dire, dis-lui qu'elle vient de m'aider, là. Marie était dans ce repos en train de tranquillement écouter Jésus. Puis ça gênait Marthe. Mais Jésus va dire, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi. Je ne peux pas lui retirer de ça, elle a choisi ce qui est nécessaire, Jésus dira. C'est nécessaire. Alors, regardons à nos vies. Regardons à ce que nous faisons. Est-ce que l'activisme a remplacé ce repos qu'on trouve en Dieu? Vous savez, on peut faire plein de choses pour Dieu, mais si ce n'est pas Dieu qui nous l'a demandé, on court à l'épuisement. Faisons ce que Dieu nous a demandé. Il y aura un repos avec cela. Parce que, vous savez quoi, quand c'est Dieu qui demande quelque chose, il n'a pas le choix d'agir. Donc pourquoi s'inquiéter? C'est lui qui nous l'a demandé. Alors apprenons à mettre de côté ce qui est charnel, ce qui vient juste par nos propres projets, nos propres forces, nos propres raisonnements, et laissons Dieu nous dire ce qu'il faut faire. En conclusion, j'aimerais juste rappeler des promesses que vous connaissez, et beaucoup de promesses dans lesquelles nous pouvons nous appuyer afin de mettre notre foi en Dieu, de rester dans ce repos. Lorsque je pourrais dire « le temps passe et bientôt, ça ne sera plus possible », à l'image d'Abraham, « je suis vieux maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Je suis vieux, ma femme est vieille, comment on pourrait avoir un enfant ?» Cette image où tout le défi du temps, « Seigneur, le temps passe, Seigneur !» Au début, c'est « ok, ça va aller », mais là, ça commence à être urgent. Dieu dira à Isaïe, « moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en son temps. » Dieu est le maître du temps. La Bible nous dit que Dieu ordonne et la chose arrive. Il est capable de faire quelque chose en 5 minutes qui nous prendrait 20 ans, 30 ans. Ne l'a-t-il pas fait pour Joseph? D'emprisonner en 1 heure d'être premier ministre d'Égypte. Ça, c'est Dieu. Alors nous avons tellement de promesses, puis ça me prendrait des heures juste pour vous citer. Il suffirait juste de s'imbiber de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais de comprendre qu'il y a des promesses qui sont sûres et qui nous gardent dans ce repos, parce qu'on fait confiance en Dieu. Je pourrais dire que je dois travailler, Seigneur, j'ai plus trop de temps pour toi, parce que tu vois, je dois en faire plus, j'ai besoin de plus d'argent. J'aime ce texte dans Psaume 127 qui dit « en vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Des gens qui courent après cette poursuite. Et Dieu dit, mais moi en premier, parce que moi j'en prends soin de mes enfants. Et même pendant leur sommeil, je travaille pour eux. Lorsque je pourrais dire, Seigneur, si je fais telle ou telle chose, j'y risque de perdre des choses, des amis. Dieu me dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Face à l'agitation, l'Ecclésiaste dira, mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Face à tout ce qui pourrait être inquiétude et fardeau, et j'aimerais que les louanges puissent venir, nous avons cette promesse merveilleuse de Jésus.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quelle promesse ! Est-ce qu'on le vit ? Est-ce qu'on vit cette déclaration que Jésus a dit, si vous venez à moi, vous trouverez un repos. Vous trouverez un repos parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur moi. Vous allez pouvoir compter sur moi. Job nous dira ceci pour toi. Dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Et j'aime ce psaume 91 qui commence par cette déclaration. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. J'aimerais qu'on courbe nos fronts. On va prier pendant quelques instants. Alléluia. Alléluia. On va reprendre ce texte, ce chant qui dit « En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Et même si les océans se déchaînent, Seigneur, c'est en toi que je veux me confier. Seigneur, tu es avec moi. C'est toi qui diriges tout. C'est toi qui as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Alors j'aimerais juste qu'on commence à regarder à soi-même, regarder à son propre cœur. Peut-être que tu te trouves dans l'agitation ce matin. Une situation qui est là, tu n'en dors plus, tu réfléchis à ça aujourd'hui. Mais comment je vais y arriver? Mais comment je m'en sortirai? Qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu ne fait rien? Au lieu de demeurer dans ce repos et dans cette confiance que tu es entre les meilleures mains, tu es entre les mains du divin potier, de l'artisan, de celui qui peut tout. Alors reste dans cette confiance. Seigneur, je veux arrêter de m'inquiéter. Je veux arrêter de gaspiller mon temps à m'inquiéter. Je veux arrêter que mes pensées ressassent. Je veux arrêter de réagir dans l'urgence et à chaque fois que quelque chose se passe, je te mets de côté parce que je règle les choses par moi-même. Seigneur, je veux arrêter de faire les choses par mes propres forces. Je veux apprendre à compter sur toi. Je veux apprendre ce que c'est que le repos, ce repos que tu nous procures jour après jour. Alléluia. Commencez à prier là où vous êtes. Ne faites pas voix haute. Priez devant Dieu, que Dieu vous écoute. Chacun connaît son propre cœur. Chacun connaît sa propre vie. Vous connaissez ce que vous vivez. Alors commencez à demander l'aide de Dieu. Demandez, Seigneur, aide-moi à entrer dans ce repos. Apprends-moi à vivre ce repos. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas laisser l'agitation, ni la peur, ni l'incrédulité me balloter à droite et à gauche. Seigneur, tu vois, j'ai tellement réagi parce qu'il fallait que les choses soient faites, parce que, Seigneur, si je faisais rien, il n'allait rien se passer. Seigneur, apprends-moi à discerner ce que je dois faire et ce que je dois te laisser faire. Seigneur, je veux apprendre à m'appuyer sur toi. Alléluia.